Cube Radio.
Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe.
Cube Radio, Cube Radio.
Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Merci de nous avoir choisis pour vous encore accompagner une partie de l'après-midi. Évidemment, j'aimerais commencer par exprimer mes pensées à tous ceux qui ont été touchés par l'ouragan Ian en Floride. On a vu des images, honnêtement, ça faisait peur. Puis on sait que beaucoup de Québécois décident d'élire domicile au Sunshine State une bonne partie de l'année. J'espère qu'ils se relèveront rapidement des conséquences de cet ouragan. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, le président américain a dit que Ian pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, rien de moins. C'est dire à quel point les vents, les vagues, l'eau, les inondations ont été importantes et ont touché plusieurs personnes. Sinon, revenons à cette déclaration, la fameuse déclaration, qui a tellement fait couler d'encre et de salive et... les propos du ministre Jean Boulet ont évidemment choqué plusieurs personnes. Évidemment, les politiciens, mais également une bonne partie de la population, et pas que les immigrants. D'autres personnes, des Québécois dits de souche, ont aussi été insultés par les propos du ministre Boulet. Il est sorti de l'ombre aujourd'hui. Il a tenté de s'expliquer ce matin, notamment auprès de notre collègue Mario Dumont. On écoute un extrait.
C'est une erreur, c'est une déclaration qui n'est pas acceptable, mais je vous rappellerai que dans le contexte, la question était comment on peut amener ou accompagner des immigrants de Montréal à Québec. Et donc, moi, je mentionnais que 80 % des immigrants s'installaient à Montréal. Et
ça c'est à peu près vrai. Le grand Montréal, si on inclut la banlieue, c'est à peu près vrai.
Est-ce que ça vous convainc? Est-ce que ça explique sa pensée? Est-ce que ça justifie ce qu'il a dit? Est-ce que vous comprenez mieux ce qu'il a tenté d'exprimer? Moi, non. Je le dis, là. Moi, je comprends pas. Je comprends pas les justificatifs, je comprends pas les explications. Il dit que c'est une erreur, c'est inacceptable, mais encore, tu sais. C'est comme si moi, j'étais en train de vous parler aujourd'hui, là, puis j'étais comme... Mais vous savez, la Terre est plate. Ça, c'est pour gagner un point. La Terre est plate! Puis là, le lendemain, je dis, c'est parce que je le pensais pas vraiment, mais comme... Je l'ai dit dans le feu de l'action. C'est parce que tu dis pas des affaires que tu penses pas dans le feu de l'action. Tu dis des affaires que tu penses de manière moins délicate, mais tu dis pas des affaires que tu penses pas. Alors, quand le premier ministre décide de garder quelqu'un qui est capable d'utiliser des préjugés, qui est capable de diviser, qui est capable d'utiliser des raccourcis pour gagner un débat, pour gagner une élection, si le premier ministre décide de garder une personne qui utilise ce genre de tactique, c'est que le premier ministre est d'accord avec ce que la personne a dit. C'est que ça devient une stratégie concertée. Je ne peux pas croire qu'on puisse passer l'éponge là-dessus.
C'est toujours un comté très, très baromètre.
Marie Montpetit.
J'espère que ce gouvernement-là va en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant.
On fait quoi?
Patrick Derry.
Pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un an.
La rencontre Derry Montpetit.
Marie... Revenons sur François Legault et les faits, disons-le comme ça. Il y a des fois des petites problématiques avec les faits. Patrick, je commence avec toi. Qu'est-ce que tu en penses?
C'est pas facile. Hein? On le sait que M. Legault, c'est un intuitif. Là. Hein? Récession, 50-50, même si son ministre des Finances disait 35%. Les chèques, c'est 500$. Les immigrants, c'est 50 000. On aime ça, les chiffres, on peut trop vérifier. J'ai un autre exemple qui est assez parlant. Puis, c'est anecdotique, mais ça montre comment le premier ministre pense. Hier, M. Legault est allé à l'antenne au micro de Paul Arcand. Et il était question des enjeux santé mentale avec les tristes nouvelles des derniers jours. M. Legault dit, il va avoir plus de psychologues dans 3 ans. Sauf que le problème, c'est que des psychologues, ça prend quelque chose comme 8 à 9 ans à former, parce que pour être psychologue, ça prend un doctorat. Et ça, c'est pas nouveau, c'est depuis 2006.
Des détails, 2006. Patrick.
2006, oui, c'est vrai, c'est un détail.
Lâche-nous avec les détails.
C'est pas vraiment important. Mais ça montre comment M. Legault pense. Puis, tu sais, que ce soit en question en immigration, tu sais, t'en as parlé, on en a parlé hier, le troisième lien, la pollution, la question de la fonderie Horn. C'est toujours la même chose. Monsieur Legault, c'est pas quelqu'un de curieux, c'est pas quelqu'un de factuel. Il s'en remet à ses intuitions, mais c'est quand même un méchant problème parce que là, c'est toutes les politiques gouvernementales qui sont basées sur, moi, je pense que.
Est-ce que l'intuition, c'est quelque chose de correct et quelque chose qui est suffisant pour gouverner un État, Marie?
Oh, je m'attends à ce qu'un premier ministre et l'ensemble des élus de l'Assemblée nationale utilisent autre chose que leur intuition pour prendre des décisions, surtout quand il est question de santé, notamment. Hein, Patrick faisait référence à la fonderie Horn. On a entendu ce matin le premier ministre qui était en entrevue dans le cadre de son passage en Abitibi, qui a décidé de se pogner avec le journaliste, de l'accuser de mentir. Monsieur Legault a fait preuve de beaucoup de mauvaise foi dans cette entrevue-là, justement. C'était surréaliste comme entrevue, mais justement, c'était la vraie nature un peu qui ressort. Moi, je mets pas ça sur le dos de la fatigue, là, parce qu'on a vu des anciens collègues de Monsieur Legault à une autre époque là, qui disaient que c'était quelqu'un de, justement, un peu brouillon, pas très studieux, colérique. Et là, on voit que ça ressort. On l'a dit à quelques reprises dans les derniers jours, il aime pas ça être contrarié, il aime pas ça avoir à se justifier. Puis là, le dossier de la fonderie Horn, là, il est tanné d'en entendre parler, puis ça sort.
Il commence à y avoir beaucoup de sujets dont il est tanné d'entendre parler. Il est tanné d'entendre parler d'immigration, il est tanné d'entendre parler du troisième lien, il est tanné d'entendre parler de la fonderie Horn. C'est rendu qu'il faut choisir les sujets avec lesquels il faut discuter avec le premier ministre. C'est un peu particulier en campagne électorale, on en convient.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est que la campagne a permis à tout le monde de sortir du Parlement. Et normalement, tout ça se passe dans la bulle parlementaire. Hein, on se questionne, on se répond, on s'envoie des slogans, on répond pas vraiment. Et c'est très, très important pour bien des stratèges politiques. Mais en réalité, les gens s'en fichent puis ils voient pas qu'est-ce qui se passe. Mais là, et évidemment, pendant une session parlementaire, et surtout les deux dernières années, le premier ministre, le gouvernement a tout l'espace, puis les autres, l'opposition, quand ils disaient en quatre, mais ils ont chacun le quart de la moitié de l'espace, pas grand-chose. Mais là, ça débat. On a des propositions de tous les côtés, on a des questions, et là, le test des faits, il est quotidien, et ça montre l'intérêt, justement, de peut-être, justement, une idée là, pour les partis à la prochaine session. Restez dehors, promenez-vous, parler aux médias, arrêter de mettre autant d'attention sur la période de questions et réponses dont, honnêtement, là, la majorité des gens s'en sac complètement.
Il y a juste deux personnes qui voient ça, moi, puis probablement une autre personne qui s'est trompée de chaîne.
Ouais, ben c'est ça. Mais c'est utile, c'est important parce qu'il y a une reddition de comptes, mais sortez, c'est ça que ça fait. Et si les partis d'opposition avaient fait ça avant, puis moi j'étais un de ceux qui l'avaient proposé, ben, peut-être qu'il y aurait une tendance qui aurait été un petit peu différente. Puis on voit M. Legault perdre des plumes, ben peut-être qu'il en aurait perdu un petit peu plus, puis un peu avant, puis ça aurait été, compte tenu de notre mode de scrutin, ben ça aurait été sain.
Mais Patrick, revenons à la fonderie Horn et des sujets qui fâchent le premier ministre Legault. Ce matin, il y a un journaliste de Radio-Canada, de la région de Rouyn-Noranda, qui a reçu le premier ministre et qui a goûté à un François Legault pas mal fâché. On écoute l'extrait.
Il y a aussi de l'acide sulfurique, de l'argent, de l'arsenic, du cadmium, du chrome, du cobalt. Vous la connaissez, la liste?
Ben là encore, c'est pas exact ce que vous venez de dire. Vous venez de dire davantage acceptable. C'est pas ce que la santé publique dit. La santé publique
dit acceptable. Je reprenais vos mots sur le 15 nanogrammes.
Non. La santé publique dit pas davantage acceptable.
Parce qu'il y a des études.
Non, mais c'est parce que là, M. Chabot, vous dites des choses qui sont fausses.
Non, mais il y a des médecins de Rouyn-Noranda qui sont pas d'accord avec vous.
Oui.
Ils sont nombreux, d'ailleurs. Ils sont plusieurs à avoir signé cette lutte-là.
Mais il y a beaucoup de citoyens qui sont pas d'accord avec les médecins. Ce que dit la santé publique, c'est que c'est un niveau acceptable, 15 nanogrammes. Donc, faut dire la vérité, M. Chabot.
Alors, après les oppositions qui sont de mauvaise foi, maintenant les médias le sont de mauvaise foi aussi. Il est temps que cette campagne finisse pour François Legault, hein?
Ah non, mais ça me fait capoter cette entrevue-là. Puis là, on a juste un petit extrait, mais ça continue comme ça, là, où il se pogne avec le journaliste. Il lui dit ça, c'est vraiment profondément de mauvaise foi. Il y a tellement de choses là-dedans. Déjà, je veux dire, l'attitude, le manque de respect, attaquer un journaliste, puis en plus de ça, surréaliste, après 2 ans de pandémie où le premier ministre a lui-même gouverné par décret, il s'en va dire « Ouais, mais il y a des citoyens qui sont pas d'accord avec les médecins. » Excuse-moi, on va gouverner comme ça. Donc là, en pandémie, ça veut dire qu'il y a des gens qui auraient pu dire « Oh non, moi, je ne me fais pas vacciner, je ne mets pas de masque, je ne respecte pas les consignes sanitaires. »
Il y a une bonne partie des militants du Parti conservateur du Québec qui pourraient lui dire « Ah ouais, fait que c'est correct, ça. »
On va passer la science au référendum. C'est ça qu'on va faire. On va passer là, toutes les avancées scientifiques, les connaissances qu'on a en santé publique, on va les passer au référendum. Ceci dit, M. Legault a un point, c'est sur la santé publique. Mais le problème, c'est l'expertise de la santé publique, ou en tout cas l'instrumentalisation de la santé publique par le politique. Parce que quand tu regardes à peu près tous les experts en dehors de la santé publique, que ce soit sur la fonderie Arn ou sur la pandémie, là, ceux qui sont pas proches du gouvernement, ils tiennent un tout autre discours. Encore une fois, on a parlé des lois de la physique, là, sont peut-être différentes au Québec ou sont peut-être différentes dans la tête de M. Legault, là, mais c'est surréel. Là, c'est comme Marie dit, là, ça n'a aucun maudit bon sens.
Sinon, parlons rapidement
si je peux
de
ajouter, oui. Là. Permets-moi juste d'ajouter, Yasmine, là, ce matin, en plus de ça, dans le dossier de la fonderie Horn, on le reprendra pas parce que je pense que tout le monde a bien entendu de quoi il était question, mais là, ce matin, dans son point de presse, il a dit qu'il excluait pas faire un référendum auprès de la population pour voir s'il fermait ou pas
l'usine.
L'usine. C'est comme, OK, c'est un enjeu vraiment fondamental, on parle de santé des gens, donc on va faire un référendum, puis on va dire aux gens, ben décidez ce que vous voulez pour votre santé, pour celle des enfants, puis en plus, essayez de comprendre ce qu'il y a à comprendre dans ce dossier-là. Donc, il substitue son propre pouvoir, sa responsabilité comme premier ministre en disant, moi, je suis en élection, je veux vraiment, vraiment, vraiment gagner mes trois comtés en Abitibi. Je veux gagner le comté de Rouyn-Noranda et le Ravire à Québec solidaire, dont il est député à l'heure actuelle. Donc, je vais pas me commettre dans ce dossier-là. Vous pouvez inventer une patente à gosse de référendum.
Oui, mais Marie, la santé mentale là, des bébés naissants qui sont plus petits puis dont l'espérance de vie est réduite, hein, qu'est-ce que tu en fais de leur santé mentale?
Ben non, mais arrête, Patrick, là. Leurs parents ont des bonnes jobs. C'est ce que le premier ministre a dit ce matin. Ils ont des bonnes jobs. Perdre leurs bonnes jobs, ça va toucher leur santé mentale bien plus que les 15 nanogrammes par mètre cube.
Voyons. Lâchez-nous avec les métaux toxiques.
On est dans le monde.
Sa responsabilité, justement, si c'est une question économique, je veux dire, qu'il aborde la question économique, qu'il trouve quelque chose d'autre, tu sais, je veux dire, à un moment donné, mets ton code de premier ministre puis fais ta job, là.
Non, ben là, c'est quand même trop demandé. C'est trop demandé pendant une campagne électorale. Marie, Patrick, toujours un plaisir, on se parle demain.
À demain.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Des analyses sur le monde sans frontières. Savoir et comprendre l'international. Guillaume Lavoie.
Guillaume, Liz Truss, la nouvelle première ministre britannique, a tout un départ depuis qu'elle a accédé au pouvoir. La reine est morte, puis là, il y a un plan de relance économique assez particulier.
Oui, Yasmine, on n'a plus les conservateurs qu'on avait là. Alors, elle arrive, puis elle dit, bon, on a des problèmes économiques majeurs, là. Regardez, là, 10% d'inflation, une augmentation, non, une multiplication du chiffre de la facture énergétique. Et en plus, la monnaie est en train de chuter. Alors, ça va pas juste mal, ça va très, très mal. Et elle arrive en disant, c'est le classique d'un premier ministre qui arrive au pouvoir entre deux élections. À partir de maintenant, hier, c'était pas bon, à partir de maintenant, ça change, des mesures énergiques. Alors, elle annonce, en gros, le gel des factures d'énergie. Alors, ça va continuer à monter, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'État va payer, mais vous n'allez pas payer plus que X. Et autre mesure majeure, mais là vraiment majeure, une réduction générale des taux d'imposition et des taxes.
Mais ça, c'est tout le monde est surpris là-dessus de dire, on sait que les conservateurs généraux, ils veulent diminuer la fiscalité, le poids de la fiscalité sur les électeurs, mais là, ça n'a aucune commune mesure avec la réalité.
C'est très important, puis c'est correct de vouloir réduire le fardeau fiscal. Par contre, comment est-ce qu'on va le faire? Mais avant même d'arriver là, il y a un concept économique qu'on pourrait mettre dans la catégorie, moi j'appellerais ça là, débile. C'est-à-dire, pour lutter contre l'inflation, je vais augmenter le revenu disponible des consommateurs afin qu'ils dépensent plus. Ça lutte pas contre l'inflation. Ça,
C'est inflationniste, ça.
C'est de l'inflation qui nourrit l'inflation. Puis là-dessus, d'ailleurs, quand on regarde les plans, là, à peu près tous les partis au Québec veulent mettre de l'argent dans les poches des Québécois pour lutter contre l'inflation. à tout prendre, là, le moins pire, c'est celui du Parti québécois, qui envoie de l'argent de manière ponctuelle aux ménages aux plus faibles revenus.
Qui en ont besoin, pas pour tout le monde.
Non. Québec solidaire, lui, donne des réductions de taxes quand moi, je vais aller manger au Ritz-Carlton. Alors, c'est peut-être pas génial, mais il va y vraiment y avoir, du côté du Royaume-Uni, là, une augmentation importante, puis là, ça devrait pas lutter à l'inflation en soi. Mais là, maintenant, c'est comment je finance ça? Est-ce que je vais m'asseoir, puis là, je vais réduire à la Thatcher, là, réduire les opérations du gouvernement, réduire les dépenses publiques? Non, non, non. On met ça sur la dette. Parce que là, la dette, c'est plus grave. Là. Et là, c'est vraiment... On est à des années-lumière de Thatcher et il y a tellement de tout ça qui est financé par la dette que là, il est arrivé deux choses. Les marchés ont pris peur. La monnaie s'est mise à chuter. Et là, on est dans un monde là, abracabrantesque. Le Fonds monétaire international sort une communication en disant « Peut-être que ça commence à nous inquiéter. Là. Je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on fait. » Alors que le Fonds monétaire international dise à des pays comme la France « Vous êtes pas capable de gérer les finances publiques comme du monde » ou pire, la Belgique. C'est normal, ça arrive tout le temps, c'est un classique. Que ce soit le Royaume-Uni, là, ça marche plus. Là.
Oui, parce que le Royaume-Uni a un historique de conservateurs fiscaux qui n'aiment pas la dette, qui veulent lutter contre la dette et les dépenses.
De prudence. Jusqu'à l'ère Thatcher, là, il y a eu des grandes années de n'importe quoi, mais depuis l'ère Thatcher, qui était poursuivie par l'ère Blair, il y avait une certaine, je dirais, responsabilité avec l'idée que tu peux pas avoir des dépenses publiques hors contrôle. Là, c'est assez difficile. Et là, ce que l'on découvre, c'est un gouvernement et une nouvelle première ministre qui court après le temps. Les conservateurs sont sous le parti, le Labour, qui est l'opposition officielle, depuis un an dans les sondages. Alors, la guerre en Ukraine, ça n'a pas changé. D'ailleurs, il n'y a à peu près aucune différence dans la position du Labour, l'opposition officielle et des conservateurs. Et là, en gros, le Labour est à 42 % dans les sondages, les conservateurs à 33. Alors là, là, quand tu commences à essayer une nouvelle entourloupette pour transformer du jour au lendemain ton positionnement dans les sondages, ben ça donne ce genre de résultat-là. On va voir comment Mme Truss va se dépatouiller avec les semaines qui viennent, mais à date, elle est mieux de prier pour que ça marche.
Et clairement mieux de prier que pour que ça marche et que les prix du gaz n'augmentent pas plus que ce qui est attendu, d'autant plus qu'il y a une grande incertitude sur le marché actuellement. Sinon, parlons du Kurdistan irakien qui a connu des bombardements de la part de l'Iran. Ça commence à être compliqué dans cette région du pays.
C'est très compliqué parce que le Kurdistan... Alors d'abord, quand on parle du Kurdistan, il faut parler, est-ce que c'est le grand ou le petit? Alors le grand Kurdistan, c'est le peuple kurde qui, lui, est éparpillé, si vous voulez, au sein de plusieurs pays. La Turquie, puis c'est du monde. 14 millions de Kurdes en Turquie, 6 millions en Iran, 6 millions en Irak, 2 millions en Syrie, 2 millions en Arménie. Et moi, je suis allé, c'est un coin de pays magnifique. Et vous avez un nationalisme civique, quand même extraordinaire, parce que les Kurdes ont toutes sortes de religions, les Kurdes parlent plusieurs langues, mais l'identité kurde est extraordinairement forte, même avec une diaspora internationale fascinante. Et il faut remonter à l'Empire ottoman. En gros, les Kurdes, c'était comme une unité au sein de l'Empire ottoman. Arrive la Première Guerre mondiale, et là, c'est jamais une bonne nouvelle pour le futur. Tu prends ton crayon, tu redessines des frontières, puis là, ben, tu te rends compte qu'il y a des peuples des deux côtés. Pendant longtemps, il y avait la promesse de donner aux Kurdes leur propre pays. Ça a été oublié. Le seul endroit où ils ont un semblant de souveraineté, c'est en Irak. Alors, le nord de l'Irak, à peu près, c'est le Kurdistan irakien, une région semi-quasi-autonome, autogérée. Et là-dessus, c'est devenu, parce que c'est la région des Kurdes la mieux gérée, par les Kurdes eux-mêmes, une espèce de refuge. Et très régulièrement, parce que les autres... nations kurdes demandent leur indépendance ou plus d'autonomie, ben, y a des gens qui traversent la frontière. Et là, l'Iran est allé, avec des drones, bombarder pour cibler littéralement des gens qui dérangent. Et c'est passablement écœurant. Puis c'est un grand classique. Quand c'est pas la Turquie qui décide de se payer la tête des Kurdes, et d'ailleurs, la Turquie avait dit à la Finlande et à la Suède, mais vous donnez des armes aux Kurdes, là, si vous arrêtez pas ça, je vous laisse pas rentrer dans l'OTAN.
Ils donnent des armes et ils donnent aussi surtout des refuges politiques à plusieurs des contestataires et des têtes d'affiche du mouvement kurde turc.
Exactement. Alors, quand c'est pas la Turquie, ben là, c'est l'Iran, bombardement, 13 morts, dans lequel il y avait une femme enceinte, des journalistes, bref, là, un portrait assez terrible. Ce qui nous rappelle qu'il y a une vieille marotte au Kurdistan, chez les Kurdes, qui disent « Les seuls amis des Kurdes sont les montagnes ». Parce que c'est les seuls qui les ont pas trahis. très souvent, depuis toujours, on a tout promis aux Kurdes. Le pire exemple, c'est pendant la première guerre du Golfe. Alors, Saddam Hussein est vraiment le tyran du moment. Les Américains disent, pendant qu'on est en train d'essayer de sacrer une volée à Saddam Hussein au Koweït, vous, les Kurdes, rebellez-vous contre Saddam Hussein. Et ils le font. Contre la promesse qu'après
Sauf
ça, on sera là pour
eux.
Qu'ils
en ont mangé toute une après.
Parce que les Américains, finalement, ont décidé de ne pas entrer en Bagdad, à Bagdad et de laisser Saddam Hussein dans sa chaise. Et après ça, Saddam Hussein a dit, bon, mais maintenant que les Américains sont partis, il les a littéralement gazés.
Absolument.
C'est une tentative de génocide à l'arme chimique. Il y a un cimetière là-bas et ça fait vraiment des frissons dans le dos. Et l'enjeu du Kurdistan, vous allez en entendre parler encore et encore et encore, parce que plus le Kurdistan irakien, qui est une zone autogérée, qui marche assez bien, qui a sa propre armée d'ailleurs, plus compétente et plus efficace que l'armée irakienne elle-même, bien évidemment, ça crée une pression et eux, ils veulent leur indépendance, ils veulent leur souveraineté. Et la pression, bien, c'est que la Turquie ne veut pas que, elle, son bout de Kurdistan devienne un autre pays. L'Arménie non plus, la Syrie non plus, l'Iran non plus. Et pourquoi aussi est-ce que c'est un enjeu? C'est pas juste politique et territorial. En dessous des pieds des Kurdes, il y a rien d'important là. Du gaz naturel, du pétrole, puis de l'eau.
Oh.
En plein milieu du Moyen-Orient, vous avez des chutes absolument magnifiques. Alors,
rien
vous imaginez, la grande question, c'est à qui ira le contrôle de ces ressources-là? Alors, le Kurdistan, le grand Kurdistan, les Kurdes, mais particulièrement à travers la lorgnette du Kurdistan irakien, c'est peut-être l'équation la plus compliquée, la plus explosive, mais peut-être aussi la plus prometteuse de toute la dynamique, des fois bien, bien complexe, qu'est le Moyen-Orient.
Et on se rappelle que notamment les femmes kurdes, mais pas juste les femmes, les hommes kurdes aussi, ont contribué à combattre l'État islamique en Syrie. Ils représentaient une sorte de... faisaient certaines milices pour essayer de résister et tenir tête à l'État islamique qui, dans le temps, a été très hégémonique puis essayait d'aller attirer, d'aller prendre des villages, village après village. Ils n'ont pas eu tant d'appui que ça par les autorités occidentales.
Et là-dessus, c'est un peu quelque chose que l'on dit peu, mais après les Israéliens, en termes d'alliés de l'Occident là, ou des États-Unis, là, après les Israéliens, c'est les Kurdes et le Kurdistan irakien. Mais c'est toujours un peu complexe parce que dès qu'ils demandent un peu plus d'autonomie, bien là, vous aviez le porte-parole de la Maison-Blanche qui disait « ça, c'est une distraction, c'est pas ça qu'on veut ». Alors, on est très heureux de compter sur nos alliés fidèles que sont les Kurdes, mais quand eux nous demandent d'honorer leurs promesses ou de les soutenir un peu, bien là, comme diraient les Kurdes, nos seuls vrais amis, c'est les montagnes.
Est-ce qu'une des raisons pour lesquelles la Turquie, notamment, ne voudrait pas que le peuple kurde soit rassemblé au sein d'un pays reconnu, un Kurdistan, un grand Kurdistan, disons-le comme ça, c'est parce qu'ils ont peur des alliés potentiels, des alliances potentielles de ce Kurdistan-là, notamment avec l'Occident, la Turquie qui a toujours joué sur différents plans de part et d'autre.
S'il y a 8 tableaux, la Turquie joue sur 8 tableaux.
C'est ça.
Mais il y a une préoccupation aussi légitime du côté de la Turquie, c'est presque le quart de la population, c'est presque le tiers du territoire. Alors, nommez-moi un pays qui dit, mais moi, c'est correct, là. J'ai des amis turcs qui me disent, c'est pas le grand Kurdistan qui me dérange, puis c'est pas l'autonomie des Kurdes en Irak qui me dérange, mais je vais pas vous laisser aller avec le tiers de mon pays, ce qui est une préoccupation légitime. Mais à la fin, si demain matin, il y avait un Kurdistan irakien absolument indépendant, il y aurait un nouveau rapport de force dans un pays, dans un coin de pays, ou est-ce que c'est pas tant que le rapport de force qui est là est meilleur ou pire, mais il est connu? C'est la vieille expression, je préfère le diable que je connais que celui que je connais pas.
Absolument.
Est-ce qu'on veut encore un Moyen-Orient, pas nécessairement mieux, mais à apprendre, une nouvelle dynamique à apprendre? Je pense qu'on n'aura pas le choix d'en venir là. Mais en attendant, tous les autres se disent, le monde est très compliqué, peut-être un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Puis ça, c'est un peu le postulat général de l'Occident jusqu'à maintenant.
Guillaume Lavoie, toujours passionnant. Merci beaucoup. À demain.
Au plaisir.
Yasmin Abdel-Fadel. Des opinions tranchées. Des propos divergents. Pour s'informer tout en divertissement. Savoir et comprendre. Yasmin Abdel-Fadel.
On le disait hier, c'était les 2 ans du fameux décès de Joyce Echaquan. On s'en rappelle, un événement tragique qui a eu lieu à l'hôpital de Joliette. Eh bien, on voudrait savoir, depuis 2 ans, qu'est-ce qui s'est fait pour améliorer les relations avec les nations autochtones. Et pour en parler, on a avec nous Yann Lafrenière, ministre sortant responsable des affaires autochtones. Bonjour, Monsieur Lafrenière.
Oui, bonjour à vous, Yasmine.
Alors, qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans? On est le 29 septembre 2022. Le 28 septembre 2020, Joyce Echaquan décédée devant un Facebook Live et sous une pluie d'insultes.
Oui, c'est horrible, puis vous avez bien fait de dire on s'en rappelle, parce que avant tout, c'est notre devoir de mémoire, se rappeler Joyce, se rappeler son décès. Puis comment ça a été un électrochoc pour beaucoup de Québécois, malgré le fait que les Autochtones nous disent que ça faisait longtemps qu'ils nous le disaient, qu'ils nous mentionnaient, qu'ils nous demandaient de changer les choses, mais ça a pris cette image-là pour avoir l'effet d'un électrochoc pour l'ensemble des Québécois. Il y a beaucoup de choses qui ont été changées, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Hier, on était sur place à Manawan. Par la suite, on s'est rendu à Joliette pour une vigile qui avait lieu aussi là, du côté du Centre d'amitié autochtone, parce que c'était le devoir de mémoire, mais c'est aussi de se dire qu'il faut continuer ce qu'on a commencé. C'est-à-dire, on a commencé à changer, entre autres, le milieu de la santé. On a commencé par Joliette, c'est une très haute symbolique. Alors, le PDG qui est en place, c'est une nouvelle PDG qui est arrivée avec un adjoint qui est membre de la communauté atikamekw de Manawan, avec un membre du conseil d'administration qui vient de Manawan, avec des agents de liaison, avec des navigateurs qui viennent de Manawan aussi. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a commencé à ajouter du personnel qui vient de la communauté, parce qu'on sait très bien ce qu'on a appris, c'est que le réflexe premier, par exemple, pour porter plainte ou pour dire que ça se passe pas bien dans le système, ça sera pas un site web, ça sera pas un numéro de téléphone, ça sera pas un ombudsman, c'est la parole. Hein. Ils vont se confier à quelqu'un en qui ils ont confiance. Ça fait qu'on a multiplié les occasions pour eux de le faire avec des gens qui sont de confiance. On a fait de la formation avec le personnel de la santé. On est rendu à 184 000 personnes qui ont été formées. En pleine pandémie, on aurait aimé que ce soit 100 %. Mais en pleine pandémie, un premier effort qui a été fait. Une formation qui n'est pas terminée en passant, parce que la formation, c'est vivant. Hein.
Oui. Pour la refaire. Mais M. Lafrenière, lors du face-à-face à TVA, le premier ministre a dit que c'était réglé, Joliette. Est-ce que vous considérez que c'est réglé?
Mais puis je veux pas de faire de débat de sémantique, mais pour le premier ministre, puis je connais bien notre premier ministre, pour lui, c'est-à-dire qu'il y avait un plan. Il y avait un plan qui était mis en place, il y a des changements, ça avait commencé à changer, c'est vrai, mais c'est comme la lutte au racisme, c'est comme la lutte à l'itinérance, c'est des projets de société, écoutez, c'est des projets d'une vie, ils vont du travail pour très longtemps. Oui, il y a un plan, puis oui, on a commencé à faire des changements à Joliette, puis c'est pas faux, mais ils vont du travail pour très longtemps.
Pourquoi ne pas reconnaître le principe de Joyce, ce principe que les communautés autochtones ont poussé suite au décès de Joyce Echaquan et à la prise de conscience collective que ça n'a aucun bon sens que vivent certaines communautés, notamment celle de Manawan? Pourquoi ne pas reconnaître le principe de Joyce?
On le met déjà en place, puis merci de me donner l'occasion d'en parler, parce qu'on le met déjà en place. Parce que le principe de Joyce, ce qu'il vient dire, c'est que les membres des Autochtones devraient tous avoir accès à des soins de santé qui sont d'une façon sécuritaire. On le met en place. Cependant, puis ça vous le savez très bien, vous ne serez pas surprise, la première chose qu'on demande dans le principe de Joyce, c'est de reconnaître le racisme systémique. Puis ça, les gens peuvent être déçus, mais ils ne peuvent pas être surpris. Depuis le jour 1, on l'a dit. Cependant, de dire qu'on n'adhère pas au principe de Joyce, qu'on ne veut pas le mettre en place, c'est faux.
Pourquoi ne pas reconnaître le racisme systémique? M. Lafrenière, vous êtes quelqu'un de très parlable, quelqu'un qui est capable de comprendre les blessures, les plaies que certaines personnes traînent avec eux depuis longtemps. Pourquoi ne pas juste passer à travers cette reconnaissance-là pour qu'enfin on puisse se mettre au travail tous ensemble sans nécessairement se bloquer devant des mots?
Vous avez raison de dire qu'il ne faut pas se bloquer devant des mots. Puis bien honnêtement, là, je ne passerai pas les 2 dernières années à essayer d'expliquer la position. Hein. Le plus simplement, je peux vous dire, on va l'accepter, on va y aller, ça va être rapide, simple, on n'en parle plus. Je vous dirais bien honnêtement, je suis persuadé que ça va arriver encore aujourd'hui. À chaque fois, j'ai des échanges sur le racisme systémique. Lorsque je vois sur les médias sociaux, je vois les commentaires qui vont, on passe à côté du plus important, qui est de faire des changements profonds. Vous savez, moi, je comprends que les gens, puis il y en a plusieurs, hein, les Autochtones vont me dire, pour eux autres, c'est ce qu'ils vivent, c'est important de le reconnaître, mais moi, ma job numéro un dans tout ça, là, c'est d'amener des changements, de faire en sorte que, oui, on parlait de la santé, mais dans plusieurs autres facettes du gouvernement, qu'on amène des changements, puis que la société québécoise adhère à ça. Moi, si les gens se braquent, parce que pour eux, c'est un terme avec lequel ils ont de la difficulté, moi, je gagne pas mon combat qui est de faire une lutte au racisme. Puis on peut avoir un débat de sémantique sur le terme, là.
Oui, mais vous voulez faire les changements avec les communautés autochtones. Les communautés autochtones ne vont pas se braquer parce que vous reconnaissez le racisme systémique.
Non, c'est pas les communautés. Attendez, vous avez raison, c'est pas ça du tout. C'est pas les communautés autochtones qui se braquent. C'est les citoyens, c'est les gens qui nous écoutent ce midi. C'est les messages que
alors,
je reçois.
Alors, pourquoi avoir à faire ce choix-là entre qui va se braquer? Parce qu'aujourd'hui, ben, c'est les communautés aux autochtones qui disent on ne veut même pas reconnaître le problème. Encore, comment peut-on le régler quand on ne veut pas le reconnaître?
D'accord. Mais je voudrais bien honnêtement, si j'avais ce discours-là, puis il n'y avait aucun geste concret sur le terrain, écoutez, ça serait insoutenable, impossible. Ce qu'on était capable de démontrer en 2 ans, c'est qu'on a ce discours-là, c'est vrai, mais on y va avec des actions concrètes. Ça, les gens le voient, les gens voient la différence. C'est vrai que c'est pas tout réglé, puis on ne réglera pas, là, je vous dis souvent, on ne réglera pas 400 ans en quelques semaines, quelques mois, mais on amène un changement. On a commencé souvent, c'est ce que j'appelle les petits pas de bébé, on a commencé tranquillement, puis on amène un changement. C'est pas tout fini, là. Mais si j'avais ce discours-là, on me disait, écoutez, le racisme systémique, on n'est pas au rendez-vous, puis on faisait rien, ça serait impossible, les gens perdraient perdraient confiance. Présentement, ils voient le changement, ils voient qu'on s'attaque à ce qui est important, c'est-à-dire la lutte au racisme. Écoutez, on est le premier gouvernement qui a mis en place un ministre dont sa job, là, c'est la lutte au racisme. On a fait le groupe d'action contre le racisme. La moitié des recommandations sont pour les communautés autochtones.
Mais puisque vous en parlez, monsieur Lafrenière, est-ce que vous êtes à l'aise de siéger sur le même conseil des ministres que le ministre Boulay qui a poussé des préjugés absolument dégueulasses lors d'un débat? Est-ce que vous pensez que c'est correct de siéger dans un conseil des ministres avec quelqu'un qui porte de tels propos?
Je vous dirais que j'ai pas entendu la déclaration du départ, mais j'ai entendu les propos de Jean ce matin avec Mario Dumont. J'ai entendu ses explications. Je veux bien réécouter ce qui est arrivé. Honnêtement, j'étais à Manawan. Puis ça, c'est la réalité quand j'étais en communauté. Là. J'ai entendu ses excuses. C'est pas évident. Je prends le temps de bien l'écouter, bien le décanter.
Ben, monsieur Lafrenière, puisque vous ne l'avez pas entendu, nous, on l'a. On va vous la faire entendre.
On a deux défis au Québec. Un économique lié à la pénurie de main-d'œuvre et un de vitalité de la langue. 80 % des immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise.
Votre réaction?
Et ma réaction, c'est que je comprends très bien les excuses de Jean que j'ai entendu ce matin. Quand il a dit que c'est pas ce qu'il voulait passer comme message, je le comprends.
C'est quoi que vous pensez qu'il voulait passer comme message quand il a dit ça?
Je ne sais pas, mais c'est clairement pas ce que j'entends là. C'est clairement pas ce que j'entends là. Je comprends pourquoi il y a eu des réactions aussi.
Est-ce qu'il mérite encore sa place au Conseil des ministres?
Je vais laisser. C'est bien la prérogative du premier ministre. Je ne jugerai pas ce qu'il a dit, mais effectivement, c'est déplorable. Puis je comprends aussi que ce matin, il s'est excusé.
Monsieur, revenons à la question autochtone. Monsieur Lafrenière, on parle beaucoup de, évidemment, ce qui se passe à Joliette parce que le décès de Joyce Echaquan a été difficile à supporter, une prise de conscience collective qui a été très difficile. Mais il y en a beaucoup des communautés autochtones qui en arrachent. Et pas juste sur la question de la santé et services sociaux, sur l'accès à la justice, sur l'éducation, sur la famille, sur la toxicomanie. Les défis sont énormes.
Les défis sont énormes. Il faut se rappeler qu'on a 55 communautés au Québec, c'est-à-dire 41 communautés, 14 villages nordiques. Puis une chose que j'ai appris depuis que je suis en poste, il faut arrêter de faire un amalgame puis de parler des Autochtones. Parce que d'une communauté à l'autre, il y a des besoins qui sont différents. Puis c'est pour ça que j'ai décidé de faire la tournée de toutes les communautés, les 55. Puis ça, c'est important. Ça m'a permis de voir ce qui était nécessaire sur le terrain. Puis ce que nos changements, parce que vous savez que j'ai mis un plan en place pour répondre à la commission Vie. Donc, on a 86 des demandes de vie qui sont en application, qui sont pas toutes terminées. Hein. Il y en a qu'on a commencé, il y a des niveaux qui sont différents, puis on va le poursuivre, parce qu'il y a encore du travail à faire. Mais j'étais capable de voir les changements sur le terrain. Vous l'avez dit, hein, c'est pas juste en santé, puis on parle beaucoup de Joliette. C'est vrai, parce que c'est là qu'on a commencé. Mais toutes nos annonces, là, quand on parle, exemple, des annonces en matière de santé, c'est à la grandeur du système qu'il faut les faire. Puis, exemple, on a mis en place des cliniques dans les centres de médecine autochtone qui allient le savoir traditionnel, la médecine qui est plus moderne. Ça répond à un besoin qui était exprimé sur le terrain. On a commencé à Val-d'Or, on va le faire au Québec. En matière d'éducation, on a mis des résidences étudiantes, on a commencé à Sept-Îles. J'ai annoncé de ça un an, je suis passé pas plus tard que lundi, puis je peux vous dire que les premiers étudiants vont arriver. Fait qu'on fait des changements. Est-ce que ça va assez vite? C'est clair, à quelqu'un qui attend depuis des années, c'est ben trop long. Et je vous le dis, on fait un changement qui est réel, qui est véritable. La dernière chose qu'il faut faire, c'est de s'asseoir sur nos mains et de dire que c'est parfait. Ce n'est pas parfait. Il y a encore du travail à faire, mais ça va prendre du temps.
Monsieur Lafrenière, il y a aussi le premier ministre qui, dans son projet de vouloir peut-être mettre en place de nouveaux barrages, évidemment, ben vous allez, si vous êtes reporté à vos responsabilités de ministre responsable des relations avec les Autochtones, les discussions vont être difficiles.
Mais oui, non, parce que je vous dirais que lorsqu'on a fait l'annonce, moi, je veux rapidement, il y a au moins une dizaine de chefs qui ont levé la main en disant on est intéressé à parler. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Puis je vais vous donner un exemple. Et ce qu'il y a de bien, là, c'est que souvent, quand on fait du développement économique, on le fait autochtone, allochtone. Moi, j'ai des communautés du côté du Témiscamingue qui ont des projets de barrage au fil de l'eau. Donc, c'est une technologie qui est différente. Là, on parle pas d'Armachine Rivière, c'est vraiment des barrages au fil de l'eau. On a des projets éoliennes. L'exemple de la Puyette, c'est 600 millions, c'est 300 jobs. On a autochtones, allochtones qui travaillent ensemble. Lundi, on était avec le promaire de Port-Cartier qui disait à quel point ça avait été important pour sa communauté. Ça, c'est autochtones, allochtones ensemble. Fait qu'il y a beaucoup de projets possibles. Quand on parle de barrage, on va le regarder. Puis je pense que le premier ministre le dit clairement, il faut regarder l'acceptabilité sociale. Qui veut embarquer avec nous dans ces projets-là? Mais effectivement, si on veut faire un changement réel, durable, ça prend de l'énergie renouvelable. Puis on va regarder avec les Premières Nations. C'est pour ça que, avant même que l'annonce soit faite, j'en avais parlé avec l'ensemble des chefs, je les avais avisés. Puis il y a des gens qui avaient levé la main en disant on est intéressé à en parler. Ça ne veut pas dire qu'ils sont intéressés ou ils sont d'accord pour en avoir un sur leur communauté, mais ils sont intéressés à nous en parler et voir avec nous qu'est-ce qui est possible. Puis j'en ai visité une en passant une centrale là, au Nunavik qui est faite au fil de l'eau et ça permet de se débarrasser du mazout qu'il y avait sur place parce que c'était des centrales au mazout. Fait qu'il y a des choses que les gens sont intéressés, sont partants. Travaillons avec eux puis ayons cette relation-là de nation à nation, des règles légales.
Monsieur Lafrenière, c'est un plaisir de vous avoir reçu. Merci d'avoir accepté notre invitation et bonne fin de campagne.
Bien, merci beaucoup. Je termine en vous disant que demain, Journée nationale Vérité et Réconciliation,
oui.
C'est notre devoir de mémoire aussi de se rappeler ce qui est arrivé dans notre histoire pas si lointaine avec les pensionnats autochtones. Alors demain, on porte un chandail orange, mais surtout, on prend le temps de voir cette réalité de notre histoire qui n'est pas si lointaine.
Et vous avez tout à fait raison. Merci pour le rappel. Yann Lafrenière est ministre sortant responsable des affaires autochtones.
Nom, Abdel Fadel. Prénom, Yasmine. Mission, nuancer l'actualité pour vous offrir des perspectives. Force, connaissance accrue de la politique et une polyvalence hors du commun. Yasmine Abdel Fadel.
Ça a peut-être été passé sous silence avec les déboires du gouvernement hier et évidemment l'ouragan de Yann qui est quand même beaucoup plus important. Mais il y a ce vidéo TikTok que Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé, auquel ils ont participé, une vidéo sur une musique là, tu sais, avec une chorégraphie sur TikTok. Et on leur a reproché, notamment de la part de la Coalition Avenir Québec, de danser sur une chanson où les paroles sont misogynes et rabaissent les femmes. Et pour en parler, on a avec nous Valérie Beaudoin-Carl, stratège numérique chez Tact. Bonjour, Madame Beaudoin-Carl.
Bonjour, ça va bien?
Ça va très bien. Donc, commençons par écouter les paroles de cette chanson-là. Ouais, moi, je suis pas capable nécessairement de déchiffrer ce qu'ils disent, là, mais il y a cette chanson qui a des propos, oui, choquants, comme beaucoup de chansons de rap. Comment les politiciens peuvent naviguer sur TikTok avec les chorégraphies de TikTok s'il faut analyser chaque parole de chaque chanson? Quel est le conseil à suivre?
C'est une excellente question, puis je dirais, c'est beaucoup d'adaptation, hein, parce que TikTok, c'est relativement nouveau, notamment en politique. Donc, de là l'importance d'accorder une attention particulière autant au contenu qu'au contenant. Sur TikTok, le contenant est extrêmement important parce que c'est ça qui fait que les gens vont continuer de regarder vos vidéos, vont s'intéresser à votre profil, votre compte. Donc, de suivre ce qu'on appelle les tendances. C'est souvent très important pour propulser un compte TikTok à un autre niveau. Donc, dans ce cas-ci, c'est certain que la chanson aurait peut-être dû être analysée un peu plus en détail. Évidemment, nous, on est externe à la situation, donc on ne sait pas dans quel contexte ça a été tourné. Parfois, on ajoute la chanson par après, par-dessus. De ce que j'ai pu remarquer, là, la vidéo n'était pas sur le compte de Québec Solidaire présentement, mais bien sur l'humoriste Anna Achour. Donc, c'est certain qu'il y a tout ce contexte-là qu'on connaît pas et qui doit être vraiment, je dirais, pris en compte chez les partis politiques parce que ton image peut vite devenir assez virale et même par le biais d'un compte externe.
Mais TikTok, j'ai l'impression que le monde qui ne connaissent pas le monde et l'écosystème TikTok sont encore plus frileux de voir une chorégraphie comme telle, parce que ceux qui savent qu'il y a ce qu'on appelle des trends, là, tu sais, des tendances, ouais, des chorégraphies qui sont jouées par tout le monde. Personnellement, moi, je l'ai vu, cette chorégraphie, à plusieurs reprises. Je n'ai jamais pris le temps d'analyser les paroles. Pour moi, c'était juste, je trouvais ça sympathique. Quand j'ai vu Gabriel Nadeau-Dubois et Manon Massé le faire, j'ai trouvé ça sympathique. Puis après, j'étais comme, quand j'ai vu les accusations, je me disais, mon Dieu, j'ai l'impression qu'on comprend pas nécessairement l'utilisation de TikTok.
Ben, je pense qu'il y a vraiment deux côtés à la médaille. C'est, d'une part, il y a la façon qu'on l'utilise pour être dans le code de TikTok. Puis jusqu'à présent, l'équipe de Québec solidaire le faisait très bien. Il avait compris comment vulgariser de façon courte avec des vidéos qui s'appliquent à la plateforme. Donc, c'est vraiment super. Mais de l'autre côté de la médaille, il y a aussi ce qu'on véhicule en tant que personne. Donc, je pense qu'on doit avoir un juste milieu dans tout ça. Mais l'important, c'est vraiment d'accorder autant d'importance au contenu qu'au contenant, comme si on faisait un communiqué de presse, une annonce ou peu importe. Donc, ces vidéos-là ont tendance à devenir virales en quelques jours seulement. Écoutez, la journée que j'ai vu la vidéo versus aujourd'hui, on a dépassé les 530 000 vues sur cette vidéo-là. Puis le compte de l'humoriste en question, c'est un compte pour lequel les vidéos en moyenne avaient peut-être autour de 5 000 vues. Donc, c'est pour dire, tu sais, l'importance qu'on accorde à ces contenus-là, même qu'on connaisse ou pas l'utilisation de la plateforme, pour traiter le tout comme si c'était une annonce, un communiqué de presse, une publication qu'on fait sur notre page Facebook. Donc, pour moi, c'est vraiment important, autant d'accorder l'importance à la chanson qui va être en lien avec le trend, pour savoir si on va de l'avant ou pas. Tu sais, je pense pas que tous les trends sont bons, et spécialement en politique.
Parlons de la vidéo de Dominique Anglade qui dansait sur « I got a feeling ». Là, on est comme pas dans des paroles sexistes ou misogynes. On est plutôt juste dans une chef d'un parti politique qui a décidé de danser quelques secondes devant la caméra avant de rentrer dans un débat. Et ça encore, ça a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce qu'on a de la misère avec le fait que les chefs utilisent les réseaux sociaux un peu comme Monsieur, Madame, tout le monde les utiliserait?
C'est une bonne question, puis je pense que c'est relativement nouveau TikTok, donc j'ai l'impression que pour certains, ça passe, pour d'autres, ça casse. Je pense que les chefs doivent également trouver un équilibre, c'est-à-dire peut-être pas être aussi présent comme si c'était ça qu'ils faisaient toute la journée. Parce qu'on s'imagine, quand on pense à un chef, on s'imagine qu'il est plus sur le terrain avec les gens dans ses circonscriptions et tout ça. Mais ça reste que c'est un des features super importants pour eux, pour leur campagne et pour leur visibilité. Puis c'est également une belle façon de montrer leur personnalité, montrer une autre facette qu'on ne voit pas nécessairement dans un débat, par exemple. Donc, j'ai l'impression que c'est vraiment une tendance qui va être évolutive. Pour le moment, c'est nouveau. C'est nouveau. Il y a des gens qui utilisent TikTok depuis très longtemps et que pour eux, c'est probablement super intéressant de voir que le volet politique est en train de faire le pont vers ces nouvelles plateformes-là. Donc, je pense que la clé, c'est vraiment dans l'équilibre. Je pense que du jour au lendemain, on peut pas arriver puis faire ce genre de vidéo-là tout d'un coup. Je pense qu'il y a une histoire à bâtir et selon chaque partie, il y a une ligne à définir, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut montrer, qu'est-ce qu'on veut montrer, puis à quel moment on veut le montrer également.
J'ai l'impression qu'aussi nos politiciens sont aussi mal à l'aise avec les réseaux sociaux. Ils ont peur. En même temps, quand ils prennent des risques, ils se font taper sur les doigts. Or, ça devient un incontournable dans les moyens de communication, les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils doivent s'en tenir à Facebook et Twitter?
Je pense pas qu'il faut s'en tenir à Facebook et Twitter. Je pense qu'il faut aller avec les plateformes qui vont vous permettre d'avoir le meilleur rayonnement. Donc, pour certains chefs, c'est probablement Facebook et Twitter. Pour d'autres, c'est peut-être TikTok. Je pense que le véhicule que chacun va utiliser doit être celui avec lequel, un, il est le plus confortable et deux, avec lequel chacun des électeurs, en fait, la façon dont ils vont aller chercher leurs électeurs. Donc, si on parle à des gens plus jeunes, c'est certain que Facebook est en déclin chez les, je dirais, 20 ans et moins. Donc, si on veut aussi parler à la relève, donc je pense que c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Puis il n'y a pas une formule gagnante qui s'applique à un parti qui pourrait s'appliquer à tous. Donc, je crois pas que c'est vraiment un incontournable d'être juste sur Facebook et Twitter, par exemple. Je pense que de diversifier ces canaux, ça peut vraiment être un gros plus. Mais c'est beaucoup plus de travail également et de contrôle de l'image, d'ailleurs.
C'est vraiment intéressant de voir ça, parce qu'aujourd'hui, les campagnes électorales peuvent se jouer énormément sur les réseaux sociaux. Et à chaque fois, il faut rapidement apprivoiser le nouveau réseau, quels sont les codes culturels associés à ce réseau. On fait pas la même chose qu'on fait sur TikTok, que l'on fait sur Facebook et que l'on fait sur Instagram. Ça doit quand même gruger beaucoup d'énergie aux équipes des différentes campagnes politiques que de s'adapter au médium.
Ça, c'est certain. Puis ça, c'est vraiment c'est un travail à temps plein. Hein. Honnêtement, là, quand on voit la production de contenu qu'ils vont avoir produit en 30 jours, par exemple, c'est assez hallucinant. Là. Je me promenais tantôt sur les plateformes, puis on parle de plus de 4, 5, 6 publications par jour. Puis là, on compte une plateforme. Imaginez quand on en a 4, 5 à alimenter, à répondre aux commentaires, à vraiment être toujours à l'avant-garde sur ce qu'on projette, sur les mots qu'on utilise. Donc, c'est pour ça que ça prend des équipes. C'est pour ça qu'une formation de ces équipes-là est importante, parce qu'on doit avoir la même ligne, on doit s'assurer que les messages sont les mêmes. Donc, chaque raccoin est inspecté par différents utilisateurs. Donc, pour moi, c'est sûr que je pense qu'il y a du bon pour les citoyens, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de bon pour les partis politiques, parce que c'est beaucoup plus facile de rejoindre une marque. Donc, c'est certain que l'adaptation et la flexibilité, ça doit faire partie du quotidien des gens qui vont travailler sur ces comptes-là. Mais c'est super intéressant de voir comment ça évolue.
C'est très intéressant. Valérie Beaudoin-Carle, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes stratège numérique chez TACT.
Merci.
Vous écoutez Yasmine Abdel-Fadel.
Cube Radio. Cube Radio.
Cube Radio. Cube Radio.
En direct à LCN.
Quand on se rend dans les studios de Cube Radio, vous reconnaissez Yasmine Abdel-Fadel. Bonjour Yasmine.
Bonjour Sylvain.
Bon, donc on revient encore une fois sur Jean Boulet et cette déclaration concernant l'immigration à Montréal. La question qui se pose maintenant, bon, on a entendu le premier ministre, François Legault, le dire, il ne sera pas ministre de l'immigration, mais pour être ministre d'autre chose, d'un autre portefeuille qu'on pourrait quand même lui donner. Donc, doit-il quitter le Conseil des ministres, selon toi?
Bien, la question se pose parce que quand on se dit que le ministre de l'immigration propage des préjugés envers les immigrants, on peut se demander si le ministre s'est disqualifié du poste de ministre de l'immigration ou s'est disqualifié de poste de ministre tout court. Et personnellement, quand je vois le premier ministre dire ben, il sera peut-être pas ministre de l'immigration, mais il pourrait rester au Conseil des ministres, je me dis ça serait problématique. Tu sais, par exemple, on va faire un parallèle, peut-être boiteux diront certains, mais on va le faire quand même. S'il y a un ministre qui dit que les vaccins, c'est n'importe quoi, ou utiliserait les propos qu'une Anna Casabonne, par exemple, avait eu à propos des vaccins. Le premier ministre pourrait dire ben, « Cette personne s'est disqualifiée d'être ministre de la Santé. » Mais cette personne se qualifie pour quel poste, monsieur le premier ministre? Est-ce que l'environnement, l'économie, les finances, le Conseil du Trésor? J'aimerais bien savoir ces propos-là qualifient la personne pour être dans quel poste. Est-ce que ce n'est pas un miroir, finalement, de un témoignage de son manque de jugement? Et un manque de jugement, qu'il soit à l'immigration ou à l'environnement, c'est un manque de jugement pareil. Moi, je pense que Jean Boulet devrait quitter le Conseil des ministres et disqualifié d'être au Conseil des ministres tout court.
Parce qu'il y a plusieurs voix qui s'élèvent, là, et pas seulement à la CAQ, là, pour dire que Jean Boulet a commis une gaffe, là, on s'entend avec... c'est plus qu'une maladresse, là. Sauf que, comme ministre du Travail, il a fait un travail, un bon travail, plusieurs l'encens à ce niveau-là. Là. Donc, est-ce qu'il faut le châtier pour tout poste éventuel?
Mais ce n'est pas un ministre... en fait, c'est un ministre de l'immigration. Et ce n'est pas une bourde, ce n'est pas une maladresse, Sylvain. C'est des préjugés. Des préjugés de la personne qui est supposée lutter contre les préjugés. C'est la personne qui est ministre de l'immigration, de la diversité, de l'intégration, de la francisation. C'est son rôle. Quand lui fait ça, il laisse quoi aux autres? C'est lui, si c'est lui le conseiller du premier ministre en matière de diversité et d'immigration, on peut commencer à comprendre pourquoi le premier ministre s'enfarge à chaque deux jours sur la question de l'immigration. Si c'est lui le conseiller sur lequel il se base, ça commence à être dangereux. Donc, c'est une question de jugement. Le ministre Boulay n'avait pas besoin d'aller là. En fait, il n'y avait rien qui qui devait aller là. Pourquoi l'a-t-il fait? Et les excuses aujourd'hui, oui, je veux bien, il y a des excuses. Mais il n'y a rien qui explique quel était le schéma de pensée du ministre lorsqu'il a dit ça. Qu'est-ce qu'il essayait de dire s'il a mal été cité, s'il s'est mal exprimé? Non, il a menti. Il a alimenté des préjugés.
Yasmine, est-ce que si la CAQ ne se dirigeait pas nécessairement vers un gouvernement assuré, est-ce que la décision d'aujourd'hui de le maintenir comme un candidat éventuel dans un autre portefeuille aurait été prise?
Ben, je sais pas. Moi, je pense que, étant donné qu'on sait que le 3 octobre, c'est terminé cette histoire-là, puis qu'on va être capable de passer à autre chose et on va pouvoir gouverner, parce que le premier ministre préfère gouverner que de mener une campagne électorale, c'est clair comme de l'eau de roche. Ben, il se dit, on va te faire encore les prochains jours, puis l'histoire de Jean Boulay, ça va être derrière nous, puis je vais pouvoir le nommer comme ministre au Conseil des ministres. Mais ce qui est certain, c'est que tout le monde va vérifier le jour de la nomination du Conseil des ministres. Est-ce que Jean Boulay a eu une promotion ou est-ce qu'il a eu une démotion? Parce que si c'est une promotion, par exemple, ben ça explique que c'est une stratégie concertée et une stratégie gouvernementale.
Bon, François Legault, là, qui a réagi encore une fois, donc... peut-être soupauler un peu sur la fonderie Horn, dans son cas, c'est en Abitibi, bien sûr. Une réaction à trois jours des élections. Il faut dire que le chef caquiste doit avoir peut-être hâte que ça se termine, non?
Il est temps que se termine cette campagne pour François Legault. Il est plus capable. Il nous le fait sentir. On l'entend, on le voit. Aujourd'hui, il était avec un journaliste de Radio-Canada pour parler de la fonderie Horn à Rouyn. Et il était tellement en mode attaque, en mode offensif, alors qu'il s'agit ici d'une question de santé publique. On parle de personnes qui peuvent avoir plus de cancer du poumon. On parle d'enfants plus jeunes. On parle qualité de vie qui est diminuée. On parle d'espérance de vie qui est diminuée. Non, le premier ministre a décidé que c'était sécuritaire, que c'était pas dramatique, puis il faut arrêter de faire peur au monde. Il ne veut pas répondre aux questions qui étaient fort valables, qui étaient posées par le journaliste en question. Et il voit maintenant le questionnement sur la stratégie gouvernementale pour la fonderie Horn comme une attaque envers son leadership. Or, la population des alentours de la fonderie Horn a le droit de se poser des questions sur sa santé. Et le premier ministre les met aujourd'hui devant un dilemme entre regarder à 15 nanogrammes par mètre cube, il y a quand même des bons salaires à considérer. Puis c'est vous qui allez décider si vous voulez garder vos salaires ou si vous êtes prêt à courir le risque. On s'attend à ce que le premier ministre prenne un peu plus de hauteur, prenne un peu plus de responsabilité, puis qu'il dise que moi, ce qui m'anime comme premier ministre, c'est la santé de ma population, premièrement et avant tout. Et pour la diversification des sources économiques de la région de Rouyn-Noranda, j'engage mon gouvernement à faire tout ce qu'il faut pour que d'autres industries voient le jour et puissent contribuer à la vitalité économique de la région. Pas qu'il attaque un journaliste.
Sa position se base aussi sur celle de la santé publique qui dit que c'est un niveau acceptable, bien qu'il faut tendre vers mieux que ça. Merci, Yasmine.
Merci, Sylvain.
Cube Radio.